Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal, on est dit que
c'est bien parti pour la seconde livraison de nos informations sur Radio Kapi. En RDC, la CENCO et l'ECC se mobilisent en consultant les acteurs politiques clés au pays en prélude du dialogue national inclusif annoncé par le chef de l'État. Dans la province d'Ikwilu, le paludisme peine à être vaincu. En 6 mois seulement, cette maladie a coûté la vie à plus de 140 personnes dans cette partie de la RDC. Radio Kapi reçoit ce matin Jean Pacanié, chef de bureau des Eastern Congo Initiative, pour parler d'une formation intensive destinée à plus de 50 adolescents à Goma afin d'en faire les leaders des Damas. Ouvrons cette édition par la politique pour parler du processus de dialogue national inclusif lancé par le président Félix Tshisekedi. Celui-ci fait suite à sa rencontre vendredi avec les responsables des confessions religieuses conduites par le cardinal Fridolin Ambongo. Au lendemain de cette audience, la conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et l'Église du Christ au Congo ECC ont entamé une série de consultations avec les acteurs politiques. Première étape, samedi, une rencontre avec le responsable de la coalition d'opposition C64. Au cœur des échanges, la demande des reports de la marche annoncée pour le 20 juillet 2026. Nous sommes sur l'étendue du territoire national afin de s'inscrire dans la dynamique des dialogues engagés. Les médiateurs ont par ailleurs annoncé qu'ils poursuivront leurs consultations avec d'autres composantes de la classe politique et de la société. On écoute le pasteur Eric Senga, porte-parole de l'ECC, dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Nous avons eu le temps d'échanger avec eux. Ils ont posé des questions pertinentes de leur point de vue, notamment la question sur l'inclusivité, où ils voulaient comprendre dans quels termes le dialogue va se passer. Ils ont aussi soulevé la question sur l'essor de la Constitution. Vous savez que leur dynamique a été mise en place en rapport avec la question constitutionnelle. Et donc, il était de notre devoir de rassurer. Et ça, c'est un point important sur lequel je voudrais insister. Cette initiative prise par le président de la République et qu'il confie à juste titre aux églises d'amorcer relève d'une dimension pastorale. Notre objectif, c'est de réconcilier le peuple, c'est de nous amener tous, fils et filles du pays, dans un cadre apaisé et consensuel où toutes les questions d'intérêt national seront abordés. Et donc, dès lors que ce processus est lancé, nous avons estimé, sans vouloir violer les droits ou la liberté des opposants, mais pour nous, c'est un engagement à prendre, c'est un signe qui doit prouver que, effectivement, le message qui a été lancé est accepté et bénéficie d'une appropriation nationale.
Notez que Radio Kapi a également tenté de recueillir la réaction des opposants membres du C64, mais sans succès. Ceci affirme ne pas vouloir se prononcer pour l'instant. Santé, plus de 140 personnes sont mortes du paludisme en 6 mois dans la province d'Ikwilu, a révélé le ministre provincial de la Santé. Robert Dissondi précise qu'au total, 387 870 cas ont été enregistrés, dont 146 décès. Selon lui, la maladie touche le 24 régions de santé de la province d'Ikwilu. Il rappelle également que le paludisme n'est pas une maladie nouvelle dans la région. Le point avec Lievin Bouy.
Selon le ministre provincial, le paludisme n'épargne pas les gens. Toutes les 24 zones de santé sont touchées. Il y a un véritable problème de maladie, que ce soit au stade grave ou simple, a-t-il déclaré. La dernière menace du paludisme au Kwilu est celle signalée au village Mukulubiala, dans le territoire de Bulungu, en juin dernier. Une dizaine de personnes ont perdu la vie après avoir manifesté de la fièvre, des douleurs abdominales et des vomissements. Robert Dinsodi annonce enfin que la situation est contenue et que plus aucun nouveau cas ni décès n'est enregistré après le déploiement des équipes pour la prise en charge. Au total, 72 cas ont été enregistrés dans ce village contre 15 décès, dont 8 femmes et 7 hommes. 5 échantillons d'eau, 30 de sang et 28 de sel ont été prélevés, a indiqué le ministre. Les nouveaux résultats sont attendus de l'Institut national de recherche biomédicale.
Nous quittons la province d'Ikwilu pour prendre la direction de l'Ituri. Retard dans le paiement des primes des agents de santé déployés sur le terrain. Le responsable en charge de la riposte à Nitouri s'explique. Ils évoquent quelques problèmes comme les difficultés administratives et logistiques. Ce n'est pas tout. Des mesures correctives sont aussi annoncées, notamment la digitalisation des systèmes des paiements. Ces autorités se sont exprimées au cours d'un point de presse animé samedi à Bounia, chef-lieu de la province de Litouri. Les précisions dans ce reportage d'Isaac Remoyope.
La coordination de la société civile de Litouri estime que malgré les efforts déployés par les gouvernements et ses partenaires, la situation sanitaire demeure préoccupante dans cette province, principal foyer de l'épidémie d'Ebola. Parmi les principales difficultés figure le faible engagement des communautés liées, selon la société civile, à une insuffisance des activités de sensibilisation et de communication. Elle affirme que certaines personnes présentant des symptômes continuent de se cacher dans leur domicile. D'autres décès surviennent au sein des communautés avant toute prise en charge. La structure évoque également les retards observés dans les interventions des équipes chargées des enterrements dignes et sécurisés, ainsi que les manques d'ambulances pour les transports des malades. La société civile fait état de la saturation de plusieurs centres de traitement d'Ebola, où les capacités d'accueil seraient parfois dépassées. Autre préoccupation soulevée, l'insuffisance des financements destinés au paiement du personnel de santé et à l'acquisition du matériel nécessaire aux enterrements dignes et sécurisés, notamment les cercueils et les équipements de protection. Estimant que les différentes missions effectuées récemment par le ministre de la Santé n'ont pas permis de résoudre l'ensemble de ces difficultés, la coordination de la société civile appelle à une implication plus forte des autorités nationales. Nous n'avons pas encore la réaction de l'équipe des ripostes à Nitouri. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
La saison sèche ne rime pas seulement avec les soleils, que ce soit à Bounia ou à Kinshasa. Elle apporte aussi son lot de poussière devenu un véritable calvaire pour les motocyclistes. À Kinshasa, sur plusieurs axes, chaque passage de véhicule soulève d'épais nuages qui réduisent la visibilité et mettent à rude preuve la santé des conducteurs. Entre yeux irrités, grippe à répétition et difficultés respiratoires, les Wewa tirent la sonnette d'alarme. Reportage de la Chembalou.
À chaque accélération, la poussière s'élève. À chaque passage de véhicule, un nouveau nuage envahit la chaussée. Sur l'avenue Kasavubu, entre la station Mollard et Kitambo Magasin, les motocyclistes avancent souvent à vue, plongés dans un rideau de particules qui complique la circulation et augmente le risque d'accident. Même les équipements de protection peinent parfois à remplir les rôles. Certains conducteurs disent avoir dû changer leurs habitudes.
Au début de la saison sèche, j'ai porté toujours des lunettes pour me protéger de la poussière. Mais aujourd'hui, il y en a tellement que les lunettes gênent parfois ma visibilité. Je suis obligé de conduire sans mes lunettes.
Pour ce conducteur, la poussière n'affecte pas seulement la conduite. Elle s'invite aussi dans l'air quotidien, avec des conséquences directes sur leur santé. Les longues heures passées sur la route exposent les motocyclistes à de nombreux désagréments.
En cette période, notre plus grand problème, c'est la poussière. Les casques, les lunettes ou les cache-nez ne nous protègent pas totalement. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous tombent souvent malades.
Face à cette situation, les Wewa appellent les autorités à agir. Selon eux, un balayage régulier des principaux axes de circulation permettrait déjà de limiter la poussière et de mieux protéger la santé des usagers.
Qui parle santé voit aussi la propreté. C'est ce que les bâtisseurs du service national s'attellent à faire dans les districts de la Tchangou, ici à Kinshasa. Ils ont lancé vendredi une offensive majeure contre l'insalubrité dans cette partie de la capitale. Une journée assez inédite, bien sûr, pour les habitants de cette partie qui observaient ces bâtisseurs en combinaison bleue et bottes jaunes. Du coup, ces milliers de jeunes formés à Kanyamakassese transforment le village du boulevard Lumumba. Notre reporter Benjamin Mudumbi a sillonné les tronçons à l'un des deux bonhommes à l'aéroport d'Enjili. Suivez son récit.
Du pont Matete jusqu'à la place Pascal sur le boulevard Lumumba, l'air semble soudainement plus léger. Là où sont tassées la veille des tonnes d'immondices et des marchés pirates étouffant l'espace public régné sous nos yeux. Armé des pelles, des râteaux, le bâtisseur nettoie sans relâche. Fini les embouteillages monstres provoqués par le désordre urbain. La circulation est fluide à la grande satisfaction des conducteurs. Pour les riverains, c'est le choc visuel. Plusieurs habitants de la Changu affirment que le changement est direct. C'est visible et palpable. Les montagnes de déchets qui gâchaient notre quotidien disparaissent, disent-ils. Voir ces jeunes travailler avec autant de disciplines militaires nous redonne enfin de l'espoir pour Kinshasa. Les embouteillages sont plutôt visibles sur le passerelle au niveau du marché de la Liberté et de Kingasani Pascal. Les bâtisseurs orientent hommes, femmes et enfants à les utiliser. Ces passerelles ont longtemps été négligées par la population qui préférait enjamber les séparateurs à leurs risques et périls. Cependant, les grands défis, selon plusieurs Quinois, restent désormais la pérennisation de cette propriété retrouvée pour que l'engouement d'hier devienne une habitude définitive.
Nous disons merci à vous tous et à vous toutes à 8h passées des 10 minutes qui suivaient Radio Okapi à Kamituga. Économie à présent avec la suspension des activités minières sur les sites des Mabela, dont les sites Kivu. Cette décision a été prise dimanche par les maires adjoints faisant office des maires intérimaires de la ville. La mesure annoncée par Alexandre Faradja Yogolelo intervient au lendemain d'un éboulement survenu dans un puits d'or. Nous sommes à Kamituga. Accident dont les bilans provisoire et des 6 morts et une dizaine de blessés. Pour sa part, la société civile, via le coordinateur du bureau des inspecteurs de droits de l'homme, dénonce ces incidents à répétition. Détail avec Jean Gandou.
Pour cette structure, ce drame illustre la légèreté avec laquelle la question des creuseurs artisanaux est gérée à Kamituga. Loin des discours des façades, Fiston Wissoba, son coordinateur, exige des sanctions sévères contre ceux qui sont censés garantir la sécurité des sites d'exploitation artisanale d'or.
Lorsque des accidents se répètent dans des puits d'or, c'est une honte au niveau national. Nous avons l'inspection générale des mines. Nous pouvons aussi demander une mission d'audit urgent à Kamituga.
Conscient des dangers encourus sur ces sites et au-delà des opérations de recherche des survivants, le maire adjoint de Kamituga, par l'entremise de son secrétaire particulier, a annoncé une série de mesures après cet incident meurtrier survenu au site de Mabela. Benjamin Mouloba.
L'autorité urbaine sur place a ordonné la fermeture temporaire de ces puits en attendant que les enquêtes se poursuivent et les services des mines et les SMAP puissent faire un état des lieux. Peut-être c'est après qui aurait encore réouverture de ces chantiers.
Pour rappel, le 22 mai 2026, le gouvernement congolais avait décidé de suspendre pour une durée de 3 mois toutes les activités minières dans les territoires de Mwenga et Shabunda au sud Kivu. Cette mesure visait à répondre à la recrudescence de l'exploitation illicite de minerais et aux risques sécuritaires qui y étaient associés.
Un peu plus au sud, nous sommes au Kasaï oriental avec cette histoire assez insolite. Une pratique étonnante s'est en effet installée depuis plusieurs semaines au marché Odia David, ex-maréchal des policiers chargés de la sécurité journalière, oppose la mention OC sur les bras de femmes vendeuses de maïs pour attester du paiement d'une prime. Une méthode artisanale contestée mais devenue routine dans ces marchés de Mboujimaï très fréquentés. Et gare à ceux qui désobéissent à la règle et elles sont mal considérées par ces hommes en uniforme. C'est un reportage signé Esther Dalafina.
Au milieu des allées poussiéreuses du marché Odia David, les femmes vendeuses du maïs se sont assises à même le sol. Chaque matin, elles tendent le bras pour recevoir un OK tracé au stylo bleu par les policiers chargés de la sécurité. Ce marquage sert de preuve de paiement d'une prime journalière, raconte une vendeuse.
Les policiers entrent au marché et demandent 200 francs pour le vélo. Si tu n'as pas 200 francs, tu donnes le maïs comme contre-valeur. Ils font les signes OK sur ton bras, parce qu'ils sont en deux groupes, ceux qui collectent et ceux qui contrôlent. Quand ils te posent la question, tu dois montrer ces signes.
Cette prime journalière se conforme au prix à la fois des vélos transportant le maïs et les marchandises vendues sur place. Lorsque l'argent manque, les vendeuses donnent du maïs, du haricot, du riz ou d'autres céréales. Les policiers chargés de la collecte se déplacent d'ailleurs avec un sachet pour récupérer la contre-valeur en nature.
Pour ces taxes, les vélos payent 200 francs. Nous, vendeuses de maïs, nous donnons 100 francs. Moi, j'ai donné le maïs parce que je n'avais pas 200 francs.
Du côté des autorités policières et municipales, la surprise est totale. Elles affirment ne pas connaître cette pratique et annoncent l'ouverture d'enquêtes au sein du marché. En attendant une solution, les femmes marchandes continueront d'étendre le bras chaque matin pour pouvoir vendre leur maïs en paix. Esther Ndalafina Mbojimai, Radio Okapi.
En sport, l'Espagne a remporté la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Nous sommes dimanche 19 juillet 2026, voulais-je dire, au stade MetLife. Nous sommes aux États-Unis. Après sa victoire d'un but à 0 contre l'Argentine, l'unique but de la rencontre a été inscrit en prolongation par Ferran Torres à la 106e minute après un temps réglementaire resté vierge. C'est la deuxième fois que l'Espagne décroche les trophées mondiaux après son premier sacre en Afrique du Sud. Nous sommes en 2010.
Actualité internationale.
Actualité internationale, les chefs d'État de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et Diao ont signé dimanche 19 juillet un accord intergouvernemental approuvant la construction d'un gazoduc entre le Nigeria et le Maroc. Long d'environ 6000 km, ce gazoduc devra traverser 13 pays africains sur la façade atlantique pour acheminer des milliards de mètres cubes du gaz nigérien jusqu'au royaume chérifien.
L'invité.
À Goma, 53 adolescents viennent de boucler 10 jours de formation intense en initiative personnelle organisée par l'association G7 Group qui veut faire de ces jeunes le futur décideur au sein de la communauté. Cette session est une occasion pour John Mpakanié, chef de bureau en RDC de Eastern Congo Initiative, de saluer l'apport de ces jeunes dans le développement de la RDC. Il répond aux questions de Rosalie Zawadi.
John Mpakanié, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a motivé à soutenir cette formation?
Déjà, Eastern Congo Initiative, c'est une organisation de droit américain qui opère en RDC depuis 2010 sous deux piliers principaux, l'autonomisation de femmes et le développement économique. Nous essayons d'accompagner toutes les initiatives communautaires, n'est-ce pas, qui pourraient développer, faire avancer la vie du Congolais au quotidien. Donc pour nous, c'était une occasion, une opportunité à encourager, voir le G7 Group qui organise une formation en faveur de jeunes adolescents. Nous avons pensé que c'était une opportunité que nous devrions accompagner parce que le changement, en fait, commence par la base. Et c'est ce que nous croyons. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui va bâtir le Congo de demain. On veut une jeunesse qui n'est pas seulement demandeur d'emploi, une jeunesse qui veut apprendre plus tard, mais une jeunesse qui apprend déjà dès le bas âge, à la base. Donc nous avons été contents de réaliser cette initiative auprès du groupe G7. Et nous nous sommes dit, eh bien voilà, pourquoi pas. Et c'est pourquoi nous sommes là et nous avons été très satisfaits de ce qui a été présenté. Des acquis que les enfants nous ont montrés durant les parcours de 10 jours de formation et la présentation d'aujourd'hui, c'était très satisfaisant pour nous.
Donc commencer aujourd'hui à initier les enfants sur l'initiative personnelle, l'entrepreneuriat va aider dans 5-10 ans à avoir des jeunes diplômés qui ne restent pas au lit.
Bien sûr, aujourd'hui nous avons vu les enfants, les jeunes enfants, les juniors de 11 à 12 ans qui nous ont présenté des projets de réflexion avec des termes techniques qu'on n'a pas connus, nous, à notre époque en tout cas. Donc ça veut dire que les choses sont en train de changer. Si aujourd'hui chaque enfant peut grandir, n'est-ce pas, avec une idée de se rendre autonome, n'est-ce pas, de créer de l'opportunité autour de soi, ça va changer. Ça va changer tout le parcours, ça va changer toute la situation sociale au niveau de la RDC. Ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans les ONG, ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans les services de l'État. Mais nous avons besoin plutôt de gens qui développent des solutions pour améliorer, n'est-ce pas, la situation sociale, pour améliorer le quotidien du peuple congolais. Donc pour nous, nous pensons que l'idée de former ces enfants, de commencer à les initier à ce genre de notions, d'idées, de réflexions, c'est une idée que nous avons besoin d'encourager, n'est-ce pas, et assurer que ça peut s'élargir à un grand groupe, n'est-ce pas, en dehors même des enfants qui sont à l'école. Pourquoi pas même les enfants qui ne sont pas voilà, encadrés ou qui sont dans des groupes ici et là, mais qui peuvent déjà être initiés, n'est-ce pas, à des initiatives, à des réflexions comme nous avons vu aujourd'hui.
Et pendant ces 10 jours, qu'est-ce qu'ils ont appris ces jeunes?
Oui, pendant les 10 jours, les jeunes ont appris à se découvrir, n'est-ce pas, le potentiel qui est dans chaque jeune. Ils ont appris à prendre confiance. Ils ont appris à développer, n'est-ce pas, le sens de réflexion, à identifier les problèmes autour d'eux, comment proposer des solutions même à ces problèmes, et à travers de petits projets. Ce sont de petits projets qui nous ont présentés aujourd'hui. Nous avons été très émerveillés de voir les jeunes qui s'expriment avec de termes techniques, avec une compréhension élevée à travers les jurys qui ont été organisés. Je parie que nous, on n'a pas eu la chance d'avoir cette opportunité, comme je l'ai dit encore une fois. Mais sincèrement, aujourd'hui, nous pensons que les jeunes qui ont participé à ce programme sont des jeunes différents, comme on l'a dit, le sel et le miel de leur génération, et nous pensons qu'ils vont impacter. Et c'est très important d'assurer que tous les enfants du Nord Kivu, tous les enfants de Goma, peuvent avoir cette opportunité de participer, d'avoir ce genre d'idées pour développer leur confiance, mais aussi leur milieu. Parce que ce qu'ils apprennent, ce sont les choses qu'ils vont répliquer. Ce sont les choses avec lesquelles ils vont grandir.
Et pour les jeunes, peut-être qui n'ont pas eu ce genre de formation en initiative personnelle, quels conseils vous leur donnez pour trouver leur chemin?
Dans chaque personne, en tout cas moi je crois, il y a toujours quelque chose de spécial. C'est pas que les jeunes ne savent pas s'orienter, mais ce sont les possibilités, les occasions qui manquent. Plutôt, je vais appeler à toutes les personnes, n'est-ce pas, les acteurs les acteurs sociaux, toutes les personnes qui ont de moyens, de possibilités, de connecter, d'aider, d'accompagner les jeunes, de s'activer. Parce que comme on l'a dit, c'est le Congo de demain.
Monsieur John Mpakanier, je rappelle que vous êtes les représentants pays des Eastern Congo Initiative. Merci.
Merci à vous.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.